les pauvres, comme du temps de Robespierre, ne votaient plus. Ils avaient décidé qu'il fallait que 500 des membres de la Convention soient élus aux deux premières chambres. Et bien, le public n'avait pas marché. Les notables n'avaient pas tous été très contents. Il y en avait qui regrettaient la vente des biens nationaux. Il y avait des émigrés qui étaient à l'étranger, mais qui conservaient leurs propriétés cachées en France sous de faux noms, qui auraient bien préféré un retour à une situation à peu près royale. Le résultat, c'est qu'au lieu de 500 membres sur les 750 anciens membres de la Convention qui devaient se retrouver là, il n'y en avait eu que 379 qui avaient été élus. Et les autres, eh bien, c'était réellement de la droite et même de l'extrême droite. Barras, qui est le plus important des directeurs, parce que c'est lui qui avait la force armée avant de la passer à Bonaparte. Barras, c'est quelqu'un de malin, de très souple, qui se dit, il y a une poussée à droite, il faut avoir des sourires du côté des royalistes, jusqu'à un certain point. Il faut leur demander de se déblanchir, et puis nous, on va se dérougir, on va s'arranger en faveur d'une espèce de situation intermédiaire. Par conséquent, il est de plus en plus aimable avec les royalistes, qu'il a écrasé au moment de Vendémiaire. Bonaparte colle à Barras. Il est une espèce de double de Barras. Alors lui aussi, il fait de la politique de droite, favorable à la droite, parce qu'il faut se faire pardonner ce qu'il a fait contre les royalistes en Vendémiaire. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il exécute les ordres du gouvernement qui, le 28 février 1996, lui ordonne de prononcer la fermeture, la clôture militaire et autoritaire d'un certain club du Panthéon qui était en somme la résurrection des Jacobins. C'est amusant de la part de quelqu'un qui avait fait tellement le Jacobin autrefois et qui maintenant fait de l'anti-jacobinisme. Il y a un problème personnel qui le tracasse dans cette année où il va avoir 27 ans, c'est le problème de son mariage. Il a envie de se marier. Parce que Joseph, Giuseppe, le frère, Joseph a fait un beau mariage. Je vous en parlais, c'était le mariage Clary, c'était des gens qui étaient des gros négociants de Marseille. Julie Clary, épouse de Joseph, avait une très grosse dot. La petite Désirée n'aurait pas demandé mieux que d'être Madame Napoléone Buonaparte. Bonaparte l'avait pris, elle était très agréable à posséder, mais il n'était pas tout à fait décidé à l'épouser, parce que maintenant qu'il est un grand personnage à Paris, ce qui convient à Giuseppe ne saurait convenir à Napoléone. Alors on le voit qui regarde à droite et à gauche ce qu'il pourrait bien épouser. La pauvre petite Désirée lui écrit des lettres gentilles et même pleurantes, mais lui il répond que ça c'est oublié, qu'il l'aime beaucoup, mais enfin que passons aux choses sérieuses. Il y a une Madame Permont, qui est la veuve d'un fournisseur. Vous savez, les fournisseurs, là, c'était des gens qui s'engraissaient. Madame Permont a une fortune considérable, elle est veuve, elle est assez jeune veuve, mais enfin tout de même elle a 20 ans de plus que Bonaparte. Alors lorsque Bonaparte lui parle de mariage, il sourit. Elle a une fille, Madame Veuve Permont, elle a une fille qui sera plus tard la duchesse d'Abrantès. Cette petite Laure épousera Junot, et vous savez que Junot deviendra duc d'Abrantès. Barras n'aime pas beaucoup Bonaparte. Barras le méprise. Barras se moque de Bonaparte. Il le trouve assez ridicule, un peu prétentieux. Et quand il sait qu'il veut se marier, il lui fait une proposition. Il lui dit, ah, j'ai quelqu'un tout à fait pour vous. C'est la Montansier. La Montansier, c'est une actrice. Elle s'appelait Marguerite Brunet, c'est son vrai nom. C'est une actrice très, très riche. Ça devrait intéresser Bonaparte. Mais elle a 65 ans. Et comme Bonaparte en a 27, ça lui paraît tout de même un peu difficile. Il veut faire un mariage d'argent, bien entendu. Il lui faut d'abord beaucoup d'argent. Mais un mariage de standing aussi. Alors vous pensez qu'épouser la Montansier, ça fera rire. Alors pas question, non, non. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé très rapidement. Dès les derniers mois de 95, il sait qu'il veut épouser. C'est une nommée Joséphine. Il est vrai que Barras, qui est son amant, l'appelle Rose, mais enfin dans le monde, on l'appelle plutôt Joséphine. Joséphine qui ? C'est Joséphine de Beauharnais. Elle s'appelle de Beauharnais par mariage, elle s'appelle en réalité Tascher, T-A-S-C-H-E-R, qui était un nom probablement d'origine alémanique. Mais si Tascher s'était fait appeler de la Pagerie, parce que s'il était expatrié, il était allé à la Martinique, donc c'est une créole, puisque c'est une Française née à la Martinique, les Tascher avaient de l'argent, c'est les Tascher de la Pagerie, c'était des gens considérables là-bas. Et sa tante, la tante de Joséphine, elle s'appelle Madame Renaudin. Et cette Madame Renaudin, elle est devenue la maîtresse du gouverneur de la Martinique qui s'appelle Monsieur de Beauharnais. Et Monsieur de Beauharnais a un fils. Alors c'est la tante de Joséphine qui va lui persuader d'épouser le fils de son amant. Et elle va épouser cet Alexandre de Beauharnais qui deviendra un général, qui lui donnera deux enfants. L'un s'appelle Eugène, l'autre s'appelle Hortense. Ils se sépareront rapidement parce qu'elle se conduit un peu mal. Il se fera guillotiner, elle-même va être emprisonnée. En prison, elle se divertit parce que Hoche est en prison également. Elle est très amie avec Hoche et même avec le palefrenier de Hoche qui s'appelle Van Acker. En sortant de prison, elle est distinguée par Barras qui se partage entre Madame Tallien, qui est sa maîtresse officielle, et Joséphine, que lui appelle Rose, je vous l'ai dit, qui est sa maîtresse occasionnelle. Enfin, elle a 33 ans maintenant, en 95-96. Elle vit par-ci par-là, vous savez, avec des financiers en particulier. Elle habite une très jolie maison. Dans le quartier qui qui correspondait à ce qui est aujourd'hui le 16e à Paris, c'était la Chaussée d'Antin. Rue Chantraine, elle avait un petit hôtel particulier à elle qu'elle avait loué. Les gens croyaient qu'elle le possédait, ce n'était pas vrai. Elle l'avait loué à Louise Caro. Et Louise Caro, c'était une ancienne actrice qui était devenue Madame Talma, la femme du grand Talma. Louise Caro avait obtenu ce joli petit pavillon qui était en simili-temple grec d'un de ses admirateurs. C'est là que l'odalisque de la rue Chantraine recevait ses amis. Il y avait ceci de particulier que sa chambre à coucher était entièrement tapitée de glace, sauf au plafond où cependant on les eut attendus. Elle-même, 33 ans, est un peu fanée. Elle fait un grand usage des fards. Quand on la regarde d'un peu près, on s'aperçoit qu'il y a une grosse couche. Elle est mignonne. Elle est créole, elle roule les airs, ou plutôt elle les avale. Enfin, les airs fondent dans sa bouche. Elle n'a pas de très jolies dents, elle le sait, elle a les dents gâtées, alors quand elle sourit, elle ne montre pas ses dents. Mais enfin, tout le monde dit, et sa réputation est bien établie, qu'elle est dans le commerce intime d'une technique incomparable. Alors Bonaparte, immédiatement, s'est enthousiasmé sur cette personne, et il s'est demandé s'il ne pourrait pas l'épouser. Il a des raisons pour ça. Première raison, il la croit très riche, il le dira. Il est très cynique lorsqu'il parle à Bertrand, à Sainte-Hélène. Il dit, je croyais que je faisais une affaire. Elle m'avait parlé d'un ou deux millions qu'elle avait, puis d'autres propriétés encore. Je me suis trompé, je me suis laissé rouler sur ce point. Je l'ai cru beaucoup plus riche qu'elle n'était. Il est vrai que c'est un réaliste, vous savez, qu'il avait fait faire une enquête. Un de ses anciens professeurs, un religieux, un ex-religieux, un de ses professeurs des minimes, vous savez, de Brienne, qui s'était sécularisé, qui s'était marié, qu'on appelait encore leur père Patro, alors que c'était Monsieur Patro avec une Madame Patro. Patro s'occupait de la question financière. Alors Bonaparte est allé le voir. Il lui avait dit, pourriez pas faire une petite enquête discrète sur Madame de Beauharnais. Je voudrais savoir enfin de quoi elle dispose comme pécune. Et le père Patro s'était vendu immédiatement à Joséphine. Il lui avait dit, dites-moi le chiffre que vous voudrez pourvu que vous me donniez une commission. Alors il avait trompé Bonaparte là-dessus. Tant pis, c'est pas bien grave parce que maintenant sa situation personnelle est considérable. Que si elle est peut-être moins riche qu'il ne l'a cru tout de même, elle est tout de même assez opulente. Et puis elle a des liaisons permanentes avec les milieux financiers. Et Bonaparte est quelqu'un qui sait, et qui vous verrez à quel point il le savait, que l'on ne peut rien faire de sérieux si l'on n'est pas appuyé par des milieux financiers. En outre, Barras le pousse. Barras, c'est tout de même son chef, hein, puis il est directeur. Barras le pousse à ce mariage. Barras en a un petit peu assez de Joséphine. Il se flétrit tout de même avec ses 33 ans. Vous savez, à ce moment-là, 33 ans, c'était un âge pour une femme. Aujourd'hui, on est très jeune. Mais Barras est fatigué de Joséphine et il aimerait bien l'installer du côté de Bonaparte. Et elle hésite beaucoup. Dans une lettre à une amie, elle dit « Bonaparte, je ne l'aime pas, je ne le déteste pas non plus, mais je le trouve drôle », dit-elle, parce que le « o » se prononçait « o » pour elle. « Je le trouve drôle ». Il faut vous dire aussi qu'il n'était pas extrêmement avenant, parce qu'il avait de temps en temps ces fameuses poussées de boutons. Il disait que c'était la gale. Enfin, c'est un garçon qui est extrêmement important à Paris maintenant, puisqu'il est le chef de l'armée de l'intérieur. Hein. C'est un général divisionnaire, très très important à Paris. Elle se dit que c'est une relation utile et qu'elle le pensait prendre comme amant, mais Satan Renaudin, qui est toujours là, la vieille maîtresse de Beauharnais, lui donne presque l'ordre, c'est le mot qu'elle emploie dans une lettre à une amie, elle me donne presque l'ordre d'épouser Bonaparte. Et puis il y a Barras, qui l'épouse tous les deux, qui lui aussi lui dit, ma petite Rose, il faut faire une fin, tu as 33 ans, c'est pas très bien de passer de financier en financier, prendons ce Bonaparte. Après tout, le divorce existe maintenant en France. Et comme Barras explique à la petite que le général Bonaparte, on va l'envoyer en Italie, et que l'Italie du Nord, c'est extrêmement riche. Et par conséquent, il y a de l'argent à faire. Surtout qu'elle est tellement bien avec les fournisseurs, les Baudins et les autres, elle pourra faire des trafics très intéressants. Elle peut être tout de même, pendant un certain temps, la femme du général Bonaparte, quitte à divorcer. Et bien, c'est comme ça que ça va se faire, ce mariage. Le 9 mars 96, ayant pour témoin Barras d'un côté, italien aussi, le général Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais. Ils ont triché tous les deux sur leur âge. Elle s'est rajeunie de 5 ans, lui il s'est vieilli d'un an pour que ça soit plus proche. Elle fait croire qu'elle en a 29, lui fait croire qu'elle en a 28. Enfin, ça y est, ils se marient. Et 3 jours plus tard, ce qui fait pleurer les biographes qui disent, enfin, une lune de miel de 3 jours. 3 jours plus tard, il part. Mais leur lune de miel avait commencé dès le mois de novembre 95 à peu près. Alors, 3 jours après, le voilà qui part pour son commandement d'Italie. On parle toujours de cette campagne d'Italie, mais enfin, il faut savoir de quoi il s'agit. Pourquoi une campagne d'Italie? C'est les Girondins qui ont déclaré la guerre. On l'oublie. Et Michelet n'aimait pas tellement qu'on le rappela. Pourtant, c'est la vérité. Vous savez, c'est la France qui a attaqué. La France girondine. C'est les Girondins qui ont déclaré la guerre à l'Europe, qui ont attaqué d'abord l'Autriche, puis la Prusse, puis l'Angleterre, puis l'Espagne. Ils ont attaqué pour des raisons d'expansion impérialiste. Et surtout pour des raisons financières. Lorsqu'ils ont décidé d'attaquer en 92, c'est parce que les biens de l'Église qui couvraient les assignats commençaient déjà à s'étioler. On avait tellement lancé d'assignats. Il fallait trouver de l'argent nouveau. Et bien, de l'argent, on le prend à l'étranger. Enfin, on le voit. C'était ça, la guerre des Girondins. Et Carnot, qui est exactement dans la ligne des Girondins, est aussi un homme qui veut une guerre qui rapporte. Je vous ai apporté là 2 citations de Carnot que j'avais présentées dans mon étude sur la Révolution, mais qui trouvent de nouveau leur place ici. Écoutez bien les instructions que Carnot donnait aux généraux français au mois de juin et de juillet 1994. « Montrez à vos hommes, disait-il à l'un qui était Jourdan, montrez à vos hommes les richesses de l'Allemagne, à leur portée. » Et voilà ce qu'il disait à Pichegru, « En Belgique, prenez tout. Il faut vider le pays. » Carnot, étant dans ses dispositions, s'accorde tout à fait avec ce Bonaparte, qui, même quand il n'était pas général, essayait déjà de l'intéresser à une attaque sur l'Italie pour mettre la main sur la Loire. C'est exactement l'homme qu'il lui faut. Et c'est pourquoi Bonaparte va lancer la fameuse proclamation que vous savez, « Soldats, vous êtes nus, mal chaussés, mal nourris. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, ça c'est ce qu'il faut dire, gloire et richesse. » Il n'y a plus moyen de parler à ces soldats comme on leur parlait quand c'était les volontaires de 92. Vous savez, ces gens-là, ceux de 92, se battaient parce qu'ils avaient l'impression que la France était attaquée, ce qui n'était pas vrai, mais elle était envahie. La France avait attaqué. C'était les gens à qui on pouvait dire « Défendez cette France, défendez la République ». Il n'y a plus moyen de leur raconter ça aux soldats. Alors la technique de Bonaparte, et jusqu'à la fin de sa vie, la technique napoléonienne, ce sera de dire aux soldats « Avancez parce que vous y trouverez de l'argent, des femmes et de l'argent ». C'est ça la guerre, selon Bonaparte.